Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Je vais tout de suite demander que la première slide puisse être inscrite, comme ça vous saurez le thème de mon message. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Et je vais vous proposer ce matin une lecture de l'Ancien Testament dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Mais avant de lire le texte, permettez-moi de vous expliquer le contexte. Nous sommes au temps d'Élisée, entre 850 et 800 avant Jésus-Christ, et le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Mais Élisée, parce que Dieu le lui dit, va déjouer tous les plans du roi, tous ses plans de conquête. Et le roi l'apprend et cherche absolument à éliminer Élisée. Et il va le faire rechercher par des soldats qui vont le trouver. Et puis, voilà, Dieu va frapper d'étourdissement, d'aveuglement ces soldats et Élisée va les conduire dans la ville forte, Samarie. Et ces soldats sont pris au piège et ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Au lieu de cela, le roi d'Israël, à la demande d'Élisée, à la demande expresse d'Élisée, va les libérer, va leur donner un festueux repas et puis après va les laisser libres de rentrer chez eux, voir le roi de Syrie. Alors le roi ne comprend pas, mais il le fait parce que c'est l'ordre de Dieu. Et puis après un temps de paix, eh bien, le roi de Syrie, décide à nouveau de faire la guerre à Israël et cette fois-ci assiège cette ville de Syrie que ces soldats connaissent bien puisqu'ils ont été emmenés captifs par Élisée. Et nous lisons deux rois, 6, à partir du verset 24 et jusqu'au verset 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, c'est à peu près le salaire de 3 mois, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. C'est à peu près 1,5 litre de fiente de pigeon pour une semaine de salaire. Je vois que ça vous parle mieux. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ?» ou du pressoir. Le roi lui dit encore, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. » Je vois que j'ai toute votre attention. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille, et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Bien. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce texte? Alors en fait, le siège des Syriens est tellement réussi que les Israélites sont absolument affamés et la famine les frappe durement au point de manger des têtes d'âne et de la fiente de pigeon qui ont tous les deux atteint des prix astronomiques. Déjà qu'ils avaient tué les pigeons pour les manger, pensait que la fiente de pigeon devait être assez rare. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que le roi va entendre de la bouche de deux femmes qui le supplient pour dire « Mais aide-nous, donne-nous à manger !» Puis le roi leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez ? On n'a plus rien. » Et réduite à la pire extrémité, elles vont commencer à manger leur enfant. Et le roi immédiatement prend le deuil en entendant ces abominations. Il était déjà à l'extérieur de perdre la guerre, et à l'intérieur de sa ville, son peuple avait perdu toute dignité, toute moralité, toute relation avec Dieu. Mais tout ça, c'est la faute d'Élisée, il pense. S'il n'avait pas libéré ses prisonniers, s'il les avait tués, rien ne se serait passé. Alors il va ordonner, le jour même, de faire mourir Élisée. Mais encore une fois, Dieu va le prévenir et il va échapper à la mort. Et au contraire, va prophétiser que le lendemain, eh bien, Samarie va reprendre, la vie va reprendre le cours à Samarie et puis les habitants pourront se procurer de la nourriture à des prix dérisoires. Alors, on va reprendre notre lecture, cette fois-ci à l'extérieur de la ville de Samarie, avec quatre hommes, des lépreux, qui sont bien sûr à l'extérieur de la ville pour des raisons évidentes. Ils ne pouvaient pas entrer en contact avec des personnes saines dans leur corps. Et ils étaient donc voués à une mort certaine si l'ennemi les trouvait. Et nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 7, les versets 3 à 10. C'est palpitant, hein, cette histoire. En tout cas, moi, je la trouve palpitante. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre : Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous disons entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. » Et ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. » Ils allèrent appeler un garde à la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici qu'il n'y avait plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes telles quelles. » Amen. Aussi un autre texte intéressant. Pour les lépreux, la situation était aussi catastrophique que pour les gens qui étaient à l'intérieur de la ville. Quelle que soit la façon dont ils regardaient leurs problèmes, l'issue, c'était toujours la mort. Soit qu'ils entrent dans la ville, il fallait le pouvoir, puisqu'ils étaient lépreux, donc ce n'était pas trop possible, soit ils restaient devant la porte de la ville, soit ils allaient voir les Syriens. La mort les attendait. Et ils ont choisi, donc, la mort la plus rapide, les Syriens. Et ils sont allés avec un espoir un petit peu fou, c'est de se dire, ben, peut-être qu'ils vont nous laisser en vie, peut-être même qu'ils vont nous donner à manger. Vous imaginez leur raisonnement, des lépreux qui vont être accueillis à bras ouverts par leurs ennemis. On va leur donner à manger, on va les laisser en vie. Des fois, c'est un petit peu déraisonnable, les idées qui passent par la tête des hommes. Mais comme ils n'ont rien à perdre, les voilà en route pour le camp des Syriens. Et quelle n'est pas leur stupeur de réaliser que le camp ennemi est vide. Et il est dit dans la parole que l'Éternel lui-même a créé un mouvement de panique chez les Syriens qui ont cru à une attaque en règle de plusieurs armées venues délivrer Samarie. Imaginez ce camp avec les tentes, les animaux, les vivres, les vêtements et même les richesses sans protection, comme si l'ennemi s'était soudainement volatilisé. Des fois, je fais une petite parenthèse, on croit que Dieu a besoin de nous pour accomplir ses plans. Détrompons-nous. Et on l'a chanté, Dieu est un grand Dieu. Il est tout puissant, c'est notre Dieu de miracles. Il n'a pas besoin d'aucun juif, d'aucun israélite pour apporter la victoire à son peuple. Dieu est un grand Dieu et dans nos difficultés, il est aussi ce Dieu qui délivre. Alors, quelle est la réaction des lépreux quand ils arrivent dans ce camp syrien ? Eh bien, ils vont s'empiffrer de nourriture. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont boire, ils vont manger, ils vont trouver des richesses, ils vont les prendre, ils vont les cacher de peur que quelqu'un les prenne. Ils vont revenir dans une autre tente, ils vont boire, ils vont manger, ils vont prendre des richesses, des habits, ils vont les cacher encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la révélation, verset 9, nous n'agissons pas bien. Et ces quatre lépreux voulaient tout pour eux, en égoïstes, mais à un moment donné, leur conscience va les toucher. Eux seuls savaient que l'ennemi était en déroute, et ils se rendaient compte qu'eux avaient de la nourriture à ne plus que savoir en faire, alors que leur peuple était en train de mourir de faim, dans des conditions qui étaient absolument extrêmes. Nous n'agissons pas bien. Et par cette évidence, eh bien, ils vont donner une sorte de réalité en disant « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et nous devons partager cette bonne nouvelle parce qu'ils réalisent que c'est vraiment une question de vie ou de mort pour les assiégés, qu'ils apportent cette bonne nouvelle au peuple pour qu'ils puissent cesser de mourir littéralement de faim. Et ils comprennent que le salut de leur peuple, ben, il dépend d'eux. C'est pourquoi ils vont se rendre en ville, malgré la nuit, puisque c'était le crépuscule quand ils sont arrivés, c'était déjà la nuit, pour annoncer cette bonne nouvelle. Vous dites, mais comment cette histoire s'est terminée ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Je vais juste vous proposer de le lire chez vous pour voir comment ça s'est terminé, parce que ce n'est pas trop mon propos. Mais je peux vous dire, par exemple, que nombre de prédicateurs pourraient utiliser cette histoire en faisant un parallèle avec les chrétiens qui sont aussi appelés à partager la bonne nouvelle. Et je pense que vous avez tout de suite compris le parallèle. Alors, laissez-moi, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais laissez-moi jouer au prédicateur. Grâce à cette histoire de ces quatre lépreux. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation que ces lépreux. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous savons que Satan nous assiège. Le monde est dans la misère. Et nous voyons des abominations partout. Et nous, les chrétiens, nous, on connaît cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Et bien trop souvent, dimanche après dimanche après dimanche, nous mangeons et mangeons de cette bonne nourriture spirituelle. Je n'ai pas dit qu'on s'empifferait. Nous mangeons et mangeons, mais on la garde pour nous et on ne la partage pas avec celles et ceux qui ont faim et soif de Dieu. Comme les quatre lépreux, Dieu pourrait nous dire aujourd'hui, vous n'agissez pas bien. Vous seuls savez que l'ennemi est vaincu, qu'il est en déroute, Le salut du monde dépend de l'Église, donc de vous. C'est donc à vous d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont en train de mourir. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alors quittez votre camp syrien et allez vers la ville assiégée. Comme ces quatre lépreux, cessez de mal agir et partagez cette bonne nouvelle, celle du salut. Vous dites amen. Parfait. Du coup, je fais un appel. Et l'affaire est faite. Je peux terminer le culte avec vous en train de louer Dieu. Mais non. Parce que comment j'agis avec ça? Eh bien, quelque part, je commençais par vous culpabiliser. Vous n'agissez pas bien. Et parfois, on culpabilise les chrétiens. Et je suis désolé, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais parfois, on manque un peu aussi d'amour alors qu'on est sur la chair. Donc, je vous ai culpabilisé un peu. Vous n'agissez pas bien, vilain chrétien. Donc, quelque part, vos émotions vont réagir. Elles vont réagir négativement, mais de quoi il se mêle celui-là, il ne sait pas de quoi est ma vie, ou positivement, c'est vrai, j'agis pas bien. Eh bien, peut-être même certains qui vont se lever. Ils vont dire, ah, c'était une belle prédication, gloire à Dieu. Mais même si la démarche est louable, nous ne sommes pas appelés à imiter ces lépreux. Alors, voilà, je propose que la prédication puisse se terminer avec un texte du Nouveau Testament. Ça fait toujours bien de conclure une prédication par un texte du Nouveau Testament. Et je vais chercher dans ma Bible donc un texte qui va coller à mes propos et je vais le trouver. Ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand ils l'eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Dans le contexte, les disciples sont terrifiés, la mort de Jésus a été prononcée, et les disciples se cachent. Ils ont peur de subir la même condamnation que Jésus. Les portes et les fenêtres sont fermées, ils sont en sécurité, oui, mais ils n'ont plus aucune possibilité de partager cette bonne nouvelle comme Jésus le leur avait appris. Ils sont donc dans la même situation que les quatre lépreux. Ils ont quelque chose à dire, mais ils ne le font pas. Or, Jésus ressuscité vient au milieu d'eux, leur donne sa paix, et leur dit que comme lui-même a été envoyé par son Père, lui aussi veut les envoyer dans le champ missionnaire. Ainsi donc, la chose à faire pour les disciples, c'est de sortir, comme les lépreux sont sortis de leur camp syrien, les disciples sont appelés à sortir de leur chambre cadenassée, de leur égoïsme, comme nous sommes appelés à sortir de nos églises pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et là encore, je peux faire un appel. Vous invitant à sortir de vos sécurités, comme les disciples ont dû le faire, décadenasser vos portes, prendre votre courage en main et annoncer enfin cette bonne nouvelle. Et à nouveau, la démarche serait louable, mais nous ne sommes pas appelés à imiter les disciples. Bien sûr, les personnages de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau, sont riches en enseignements. Mais celui qui est le centre de notre vie et donc de notre prédication, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui est notre modèle. On ne nous appelle pas des léprosiens ou des discipuliens, on nous appelle des chrétiens, parce que notre modèle, c'est Jésus, parce que le centre de notre vie, c'est Jésus, parce que le centre de nos prédications, c'est Jésus. Et on parle de prédications qui sont christocentriques, c'est-à-dire qui sont centrées sur Jésus. Mais parfois, nous, en tant que prédicateurs, nous nous arrêtons sur un texte de l'Ancien Testament et nous y faisons ressortir des valeurs bibliques uniquement à partir de ce texte. C'est bien. C'est bien. Mais si c'est le cas, eh bien, vous, nous, moi, devons faire l'exercice en nous demandant en quoi Jésus est mon modèle dans ce texte que je viens d'entendre. En quoi Jésus est l'exemple à suivre. Et ne pas m'arrêter à des lépreux ou à des disciples, si le prédicateur ne le fait pas, mais à aller jusqu'au modèle parfait, à Jésus. Et dans ce cas, Luc 4 est le modèle par excellence de verset que nous voulons retenir dans cette histoire de lépreux. L'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir du verset 18 et le verset 21, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et le texte continue. Et au verset 21, il dira, « Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus a quitté le ciel, lieu de la perfection, afin de venir sur la terre pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer que oui, les captifs peuvent être libérés, mais qu'ils sont libérés en lui. Et il dira ce jour-là, aujourd'hui, cette journée est une journée de bonne nouvelle, parce que la parole est accomplie. Alors mieux que les quatre lépreux, Jésus est venu pour nous apporter la nouvelle du salut, et cette fois-ci c'est un salut éternel. Mieux que les disciples, Jésus n'a pas gardé cette bonne nouvelle pour lui, il est celui qui était envoyé pour faire de chacune de nos journées dans ce monde une journée de bonne nouvelle. Jésus est mon modèle par excellence. Comme lui, je veux être oint par le Saint-Esprit. Comme lui, je veux quitter ma zone de confort. Comme lui, comme Jésus, je ne veux pas garder cette nouvelle pour moi. Comme lui, je veux aller vers les captifs et leur délivrer ce message de la bonne nouvelle. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'irai apporter cette bonne nouvelle? Bien, pas comme les quatre lépreux qui, eux, l'ont apporté parce qu'ils avaient peur que leur silence allait les conduire à une condamnation. Pas non plus comme les disciples, parce que Jésus leur a reproché leur manque de foi. Et ils ont allé parce qu'ils avaient quand même été un peu poussés. Pourquoi je vais faire ça? Eh bien, la réponse est en quelques mots. Je fais ce que Jésus me demande parce que je l'aime. Je fais ce que Jésus me demande de faire parce que je l'aime. Et c'est cette relation d'amour qui existe entre lui et moi qui fait la différence dans les motivations qui m'animent dans ma vie chrétienne. Et c'est cette relation d'amour qui existe entre lui et toi qui fait la différence dans les motivations qui t'animent dans ta vie chrétienne. C'est Jésus, notre modèle. Il est le centre de notre vie. On peut mettre le passage, l'inflate suivante, s'il vous plaît. Merci. Parce que nous l'aimons, nous faisons ce qu'il fait. Alors, ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Et qu'en chacune de nos vies, cette journée, aujourd'hui, demain, après-demain, soit une journée de bonne nouvelle parce que mes motivations sont fondées sur l'amour que j'ai en Jésus, mon modèle. Amen. Eh bien, nous prions. Seigneur, tu es le centre de notre vie. Et ce matin, on ne va pas faire d'appel, parce qu'il n'y a pas d'appel pour te dire que nous t'aimons. C'est simplement le cri de notre cœur, l'expression de notre cœur qui dit « Jésus, je t'aime. Tu es mon modèle. » Et la Bible dit que tu étais tenté en toutes choses sans commettre de péché. Tu es mon modèle. Tu es notre modèle, Jésus. Et dans ces temps que nous vivons, nous voulons apprendre à te suivre mieux que les lépreux l'ont fait, mieux que les disciples l'ont fait. Nous voulons être de ceux et celles qui suivent ton exemple. Notre vie est centrée sur toi, Jésus. Et l'expression de du fruit que nous avons démontre notre amour. Amen. Je propose de continuer en chantant ce chant qui nous rappelle que Jésus est le centre de nos vies. Et si vous désirez, après ce chant, bien, élevez votre voix en disant à Jésus que vous l'aimez, qu'il est votre modèle, et que ce que vous faites, ce n'est pas fait par contrainte, par manipulation, par pression, que sais-je. Mais ce que vous faites pour Jésus, c'est parce que vous l'aimez, parce qu'il est au centre de votre vie, parce qu'il est le centre de votre vie. Amen.